à connaître et à comprendre cette anatomie et à pouvoir l'utiliser plus tard.
Voilà, et c'est la raison aussi pour laquelle vous avez proposé d'autres supports que les schémas dans les livres et la dissection. Vous avez mis en place une activité justement d'apprentissage de l'anatomie via la radiographie et aussi via des vidéos d'apprentissage de la palpation, donc qui sont en ligne, hein, je pense, aujourd'hui.
Oui, c'est sur YouTube, donc si tout le monde veut aller voir ces vidéos, il suffit d'indiquer palpation cheval et on tombe sur les vidéos YouTube qu'on a fait à l'université de Namur. Et c'était un besoin dans le sens où on a beaucoup d'étudiants malgré tout, et c'est pas évident d'être à côté de chaque étudiant pour lui expliquer comment faire, ce qu'il doit ressentir, à quel endroit il doit mettre sa main. Et donc on s'est dit, faire des vidéos, ça peut déjà être une première belle approche pour expliquer à l'étudiant comment faire, et s'il a la possibilité après de s'entraîner sur son chien, sur son cheval, pour autant qu'il en ait un, ou qu'il ait accès à ces animaux-là au niveau de notre ferme pédagogique. C'est vraiment un outil indispensable, puisque plus tard, il va utiliser ses mains, il va palper, et c'est quelque chose qu'il doit apprendre le plus tôt possible. Au niveau aussi de l'imagerie, c'est l'idée de se faire l'œil. Donc c'est un peu comme si vous arriviez au musée du Louvre, si vous n'y connaissez rien en peinture, ben vous allez regarder et vous allez vous dire « Ah oui, ça c'est beau, ça j'aime bien, ça j'aime pas », mais vous pourrez pas aller plus loin. Par contre, si on vous a appris à regarder les couleurs, à regarder les textures qui ressortent, le fait que la structure est fort proche de la réalité ou pas, mais vous pourrez mieux apprécier encore ces œuvres au Louvre. Et ici, pour l'imagerie, c'est pareil. C'est se dire, tiens, j'ai déjà vu un os normal à la radio en tant qu'étudiant, et maintenant je suis en pratique, j'ai fait une radio sur mon animal et je vois que l'os, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et ça, c'est le début du diagnostic.
Connaître tout ce qui est normal pour pouvoir détecter ce qui ne l'est pas, Stéphane Adam, c'est la même chose avec l'âme humaine.
Oui, c'est le principe même de la neuropsychologie, par exemple. C'est d'étudier l'anormal pour comprendre le normal. Donc, par exemple, j'ai cette anecdote chaque fois pour expliquer ce qu'est la neuropsychologie. C'est un monsieur se lève, se retourne dans son lit. Il a eu son anniversaire la veille au restaurant, un petit peu arrosé, mais sans excès. Il se sent un petit peu nauséeux et migraineux, et dans son lit, il se retourne et il voit une personne qu'il ne reconnaît pas, couchée à côté de lui dans le lit. Donc il se dit, oula, il y a quand même quelque chose un peu particulier. Il va donc aller dans la salle de bain attenante à la chambre, il va se débarbouiller le visage, et puis il se regarde dans la glace et il ne se reconnaît pas. Et donc là, naturellement, il est un petit peu paniqué. La personne qui était dans le lit se lève, vient dans la salle de bain, et sur le trajet pour aller dans la salle de bain, lui parle. Et il reconnaît que c'est son épouse. Mais quand elle rentre dans la salle de bain, il ne reconnaît pas son épouse sur son visage. Mais il reconnaît la voix de son épouse, son accent, etc. Donc là, ils partent à l'hôpital. Sur le trajet, il rentre ses vaches, parce que c'est un monsieur fermier qui reconnaissait parfaitement ses vaches, pas son épouse. Enfin voilà, c'est une anecdote tout à fait réelle. Il voit le facteur qu'il reconnaît sur son képi et sa voix, mais qu'il ne reconnaît pas au visage. Ils vont aux urgences, on constate qu'il a une tumeur dans une zone postérieure du cerveau. Et que nous apprend cette situation, c'est que traiter visuellement un visage, c'est complètement différent que d'identifier un objet, que de reconnaître des animaux, et que nous avons donc tous quelque part dans notre cerveau une zone qui prend en charge le traitement spécifique de l'information visage humain, et que si nous avons une lésion de cette zone ou un dysfonctionnement de cette zone, on pourrait avoir le même symptôme que ce monsieur qu'on appelle la prosopagnosie, c'est-à-dire la non-capacité à reconnaître les visages humains. Et donc l'anormal nous apprend beaucoup sur le normal. Mais le vieillissement, pour revenir là-dessus, c'est on a beaucoup tendance à aborder la question du vieillissement sous l'angle même du point de vue scientifique négatif, en disant qu'est-ce que l'on perd en vieillissant, alors que toute une série d'études nous montre plutôt ce que nous apprend le vieillissement, entre autres sur quelles stratégies les personnes âgées mettent en place pour rester si heureuses, et que si nous-mêmes nous appliquions les mêmes stratégies que les personnes âgées s'appliquent spontanément à elles-mêmes, eh bien nous serions à peu près tous plus heureux.
Voilà, et on ne cesse jamais d'apprendre, et notamment grâce aux recherches que vous menez, Stéphane Adam et Fanny Ontoire, et nous allons continuer à en parler dans un instant. Mais d'abord, on écoute Oasis. The brains I had went to my head. Don't Look Back in Anger, c'était Oasis.
La première, les éclaireurs, Fabienne Van der Merch.
Et mon choix d'Oasis, c'est évidemment un petit clin d'œil à notre invitée Fanny Ontoire, qui fait partie du groupe Oasis, le groupe de recherche à l'université de Namur. C'est aussi une façon de relier à Stéphane Adam, parce que dans le clip d'Oasis figurait Patrick McNee, qui a été le célèbre Chapeau Melon dans la série Chapeau Melon et Bottes de Cuir. Et donc il y avait un mix assez intéressant de générations dans ce clip de ce groupe Oasis, puisqu'il est question, quand on parle des seniors, évidemment, des relations intergénérationnelle, ça me semblait assez pertinent. Stéphane Adam, cette relation intergénérationnelle, elle est essentielle pour aplanir les stéréotypes à l'égard des aînés. Pour autant que la relation soit positive, évidemment.
Effectivement, donc on en parle beaucoup d'ailleurs de cette mode de l'intergénérationnel, mais tout intergénérationnel n'est pas nécessairement bon en soi. Mmh. Une de mes doctorantes montre que c'est la qualité des contacts entre générations qui compte plutôt que la quantité. Et souvent, ces contacts, c'est intrafamilial, entre un petit-fils, une petite-fille, et son grand-père, sa grand-mère. Et on montre que c'est pas le fait de voir souvent mes grands-parents qui est déterminant, mais c'est le fait que quand je le vois, ça se passe de façon très positive, très constructive. Mmh. Et donc là, effectivement, ça montre un enjeu majeur, c'est le maintien ou le développement de ce lien intergénérationnel autant qu'il est possible de le faire. Et que c'est ça, entre autres, qui génère chez les enfants une vision plus positive du vieillissement et des conséquences très positives aussi sur la santé des seniors et, entre autres, sur le fait qu'ils sont beaucoup moins sensibles aux stéréotypes agistes s'ils ont des contacts de qualité avec des générations en dessous. Et donc, en l'occurrence, souvent, les enfants, petits-enfants, donc ça reste des générations intergénérationnelles intra-familiales.
Mais il y a eu des expériences avec des enfants, notamment de 7 à 12 ans, où ils étaient censés parler à une personne âgée, et on remarque les stéréotypes qui remontent à la surface, évidemment.
Bien sûr, parce que les enfants sont naturellement des éponges. Mmh. Si vous allez à la caisse du Carrefour, de l'Aise, Macro et autres, pour essayer d'être assez exhaustif, et que vous êtes à 7 heures du soir avec votre enfant dans le caddie et que vous attendez votre père et votre mère dire « Ah, encore ces vieux à la caisse là, alors qu'ils ont toute la journée pour faire leurs courses, etc. » Et entre autres aussi les dessins animés de Disney. Donc les personnages de dessins animés de Disney âgés sont plutôt rares, et quand ils le sont, c'est souvent plutôt sous un angle négatif, hein. La vieille sorcière dans Blanche-Neige, Cruella dans Les 101 Dalmatiens, Picsou, vieux radin. Donc on montre que leur vision du vieillissement n'est pas aussi négative que les adultes, hein, mais elle est quand même déjà présente. Et effectivement, dans cette étude qu'on a publiée il y a un an, on invite des enfants à jouer au jeu tabou que tout le monde connaît. Il faut faire deviner un mot à une personne sans prononcer ce mot. Et ils jouaient par Skype, sauf que l'enfant ne voyait absolument pas la personne en vidéo. Il voyait la personne uniquement sous son avatar, c'est-à-dire sa photo d'identité. Mmh. Et donc, dans un cas, on disait à l'enfant « faites deviner deux mots à ce joueur ». Et le joueur, c'était Julie, une enseignante de 25 ans. Et puis, il devait faire deviner deux mots à Bernadette, enseignante à la retraite de 75 ans. Et donc, tout se passait exactement de la même façon, c'est-à-dire que le participant avec qui l'enfant jouait faisait une erreur à 30 secondes et donnait la bonne réponse à une minute. Mm-hmm. Que ce soit avec la joueuse vendue comme jeune ou que ce soit avec la joueuse vendue comme âgée. Et tout est enregistré et on voit que l'enfant ne parle pas tout à fait de la même façon quand il s'adresse à la joueuse plus âgée. Et surtout, quand il évalue la compétence du joueur après avoir fini la partie, il estime que la compétence du joueur jeune est meilleure que celle du joueur plus âgé, alors que factuellement, la compétence est strictement la même puisque les réponses, erreurs et bonnes réponses sont produites strictement au même moment. Et donc effectivement, ça montre que l'enfance est déjà imprégnée d'une certaine façon de ce type de stéréotype, dont celui qui est que avec une personne âgée, il faut parler plus fort, plus lentement, utiliser un vocabulaire plus simple. Et les études montrent que plus on parle comme ça avec une personne âgée, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle en anglais le elder speak, le parler petit vieux, bien moins bien la personne âgée parle. C'est-à-dire qu'elle va vous demander de répéter, non pas parce qu'elle n'a pas compris, mais parce qu'elle se demande si elle a bien compris, parce qu'elle se sent diminuée, moins confiante en elle, par le fait qu'on lui parle petit vieux, en quelque sorte.
Et ce parler petit vieux, puisque vous l'évoquez, ça fait partie de l'agisme malveillant, puisqu'on parlait tantôt de l'agisme bienveillant et de l'agisme malveillant. Vous mettez en pratique des techniques sur le terrain avec des personnes âgées ou avec ceux qui les entourent, donc des aidants, qu'ils soient professionnels ou familiaux. Les aidants qui doivent être aidés, ils doivent être orientés sur la conduite à suivre, sur les mots à utiliser, les gestes à faire ou à ne pas faire. Et c'est à ça que servent les consultations cliniques d'aide aux aidants que vous organisez.
Oui, effectivement, donc c'est la même chose que les interventions qu'on fait en maison de repos, c'est-à-dire que ça part du principe assez simple qui est que pour bien interagir ou agir avec une personne, je dois connaître parfaitement la façon dont elle, entre guillemets, fonctionne. Mmh. Donc si on est face à une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer et que je ne sais pas comment fonctionne sa mémoire, je ne sais pas comment adapter ma façon d'être avec elle pour faire en sorte que ça se passe au mieux malgré les difficultés cognitives qu'elle peut présenter. Quand on explique effectivement à un aidant familial, mais aussi à des professionnels, certains symptômes, ça donne finalement une emprise sur la situation vécue.
Voilà, donc des formations pour les aidants proches, professionnels ou familiaux. Des formations aussi, des supervisions auprès des professionnels de la santé, en particulier dans le secteur institutionnel, les maisons de repos et de soins. Et toutes les informations vers le grand public via toutes ces formations dispensées aux professionnels et aux directions. Votre unité a aujourd'hui un carnet d'adresses énorme dans le secteur des maisons de repos et de soins, mais aussi dans le secteur du handicap, à la fois en ce qui concerne le vieillissement des personnes porteuses de handicap, on va dire déjà au départ, mais aussi des personnes qui, en vieillissant, développent des formes de handicap, que ce soit pour la marche, la vue, l'ouïe, et qui peut vraiment les entraver aussi dans leur quotidien. Une de ces formes de handicap, c'est l'arthrose, et on revient vers vous, Fanny Ontoire. C'est une pathologie dont vous nous avez dit, bien sûr, qu'elle peut être très handicapante, que ce soit pour l'être humain ou pour les animaux, puisque je rappelle que vous êtes aussi médecin vétérinaire, et surtout qui peut aggraver un état général. Vieillir n'arrange rien, mais il y a d'autres causes. Et c'est là où vous allez creuser davantage de ce côté. Parce que quand vous avez fait votre thèse sur l'arthrose, l'objectif c'était de décrire les modifications du cartilage, de l'os, en utilisant, on l'a dit, comme modèle le genou du mouton. Vous allez plus loin maintenant, plutôt en biologie moléculaire.
Voilà, donc en fait, ici, j'ai démarré donc ma recherche pendant ma thèse plus sur les aspects d'imagerie avec des aspects très cliniques. Et maintenant, on se rend compte, en fait, au fur et à mesure que ce genou, que cette articulation n'est pas juste de l'os et du cartilage. C'est bien plus que ça. C'est vraiment de plus en plus considéré comme un organe à part entière, comme on dirait le cerveau. Et donc, cette articulation a plusieurs tissus, le cartilage qui recouvre l'os, et aussi une membrane tout autour qui vient fermer l'espace articulaire qu'on appelle la membrane synoviale. On a autour de ça des ligaments qui maintiennent l'articulation, puis des muscles qui mettent l'articulation en mouvement, des nerfs qui viennent vous permettre de sentir s'il y a de la douleur dans cette articulation, qui vous permettent de savoir si vous êtes en train de faire une flexion ou une extension. Et tous ces éléments peuvent être sujets à des modifications qui vont faire apparaître de l'arthrose. Et donc, le principe de ma recherche, c'est d'aller justement dans cet aspect fondamental, d'aller étudier des ARN particuliers qu'on appelle les petits ARN nucléolaires au sein des différents tissus. Donc, plutôt que juste se baser sur le cartilage ou sur l'os, eh bien d'aller sur tous les tissus en même temps, le cartilage, l'os, la membrane synoviale, pour essayer de trouver un dénominateur commun pour des modifications qui seraient juste liées au vieillissement ou des modifications liées vraiment à de l'arthrose qu'on appelle plutôt post-traumatique, donc liées à une lésion primaire, et de voir un peu quel dénominateur commun pourrait être aussi une cible de traitement.
Voilà, et ça parce qu'il faut pouvoir diagnostiquer cette maladie le plus tôt possible pour pouvoir en freiner, le cas échéant, l'évolution, que ce soit chez l'être humain ou chez les animaux qui en souffrent également.
Exactement. Donc, ce qui se passe, c'est que pour le moment, quand on a de l'arthrose, on s'en rend compte parce qu'on a des difficultés à bouger et qu'on a mal. Et donc là, à ce moment-là, on commence à faire des investigations et on se rend compte que vous avez de l'arthrose. Quand on a fait ce diagnostic-là, souvent, on est dans des stades assez avancés avec des grosses modifications au niveau de l'os, des grosses modifications de cartilage, avec des pertes complètes parfois de cartilage. Et c'est difficile à ce moment-là de mettre un traitement en place parce que régénérer le cartilage, on en est encore loin. On a beaucoup d'essais qui se font, mais on n'a pas encore trouvé le traitement efficace qui vous régénère le cartilage. Et du coup, le traitement définitif en fait de l'arthrose, c'est le remplacement de votre articulation. C'est une intervention lourde. Il y a des réinterventions parfois qui sont nécessaires. C'est quelque chose qui peut parfois être dangereux si vous avez des maladies cardiaques, des choses comme ça. Et en plus, au niveau de la qualité de vie après ce traitement, vous avez des restrictions. Donc, imaginez que vous êtes un grand sportif. Mais après, un remplacement de votre genou, les chocs, ce n'est plus possible pour votre articulation. D'où l'idée d'essayer de diagnostiquer au plus tôt possible la maladie articulaire pour essayer d'intervenir le plus tôt possible et ralentir sa progression. Et dans cette idée-là, il faut voir ça un peu comme des visites chez le dentiste. Mmh. Une fois par an, c'est le grand principe. Et parfois, il détecte quelque chose avant même que vous n'ayez mal. Mmh. Et ce qui serait merveilleux, c'est qu'on puisse faire pareil, aller chez son médecin traitant, il vous fait une prise de sang et il vous diagnostique un pré-cancer ou il vous diagnostique une pré-arthrose. Mmh. Vous faites une imagerie ou vous faites simplement un exercice physique et votre médecin évalue la mobilité de vos articulations et vous dit, tiens, par rapport à l'an passé, il y a une évolution, on pourrait peut-être faire une imagerie, une IRM de ton genou parce que je vois que tu ne fais pas ce mouvement-là aussi bien que l'an passé. Et là, on diagnostiquerait peut-être des modifications du cartilage, des modifications de l'os ou de la membrane synoviale qui seraient des signes de pré-arthrose. Et on serait à ce moment-là à même d'agir avant que la pathologie ne devienne un handicap.
Voilà, et de détecter avec des techniques peu invasives finalement, puisque c'est une maladie qui touche, comme vous l'avez dit, différents composants de l'articulation. C'est dans ce contexte que vous avez élaboré le projet OVISNO Project, qui a été soumis au FNRS dans le cadre de l'appel Bourse et Mandat, et qui vous a réussi, puisque je le rappelle, vous êtes depuis le 1er octobre officiellement chargé de recherche FNRS. Ça veut dire que vous avez bien fait d'être patiente, hein, parce qu'on aime bien de mettre les gens dans des cases et ça complique parfois les parcours et le financement des dossiers. Vous êtes vétérinaire de formation et vous avez fait des recherches essentiellement jusqu'ici sur des aspects cliniques de l'arthrose, mais votre projet était très, comme vous dites, biomol, c'est-à-dire qu'il incluait donc des techniques d'analyse que vous n'aviez pas utilisées dans votre thèse et donc il fallait passer des étapes. Hein.
Oui, voilà, il fallait être très patient. Et puis les retours que j'ai eus des premiers projets que j'avais soumis ont été très positifs puisqu'on m'a justement indiqué dans quelle direction m'améliorer puisqu'effectivement, je ne maîtrisais pas spécialement ces techniques très biomolles. Et donc, pour en revenir au projet tel quel, donc ce projet OVISNO, c'est pour ces petits ARN nucléolaires et évaluer les modifications avec l'âge et avec l'arthrose. Alors, comprendre ce que sont ces petits ARN nucléolaires, c'est un peu complexe, mais si on reprend simplement le dogme fondamental de la biologie moléculaire, ADN, ARN, protéines, eh bien, imaginons une cellule du cartilage comme le chondrocyte. Cette cellule doit produire tous les jours un petit peu des molécules pour maintenir le cartilage en bon état. Elle doit, par exemple, produire du collagène. Alors, pour produire le collagène, elle doit aller chercher la recette du collagène dans le grand livre des recettes, qui est le grand livre de l'ADN, qui est dans le noyau. Et dans un premier temps, la cellule, en fait, va copier la recette de cuisine sur une feuille volante. Cette feuille volante, c'est l'ARN messager. Cette feuille va ensuite être transmise aux ribosomes. Et les ribosomes, c'est en fait les commis qui produisent le collagène. Alors, dans ça, j'ai pas encore parlé des petits ARN nucléolaires. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, eux, ils interviennent dans la maturation des ribosomes, dans la formation des commis de cuisine. Donc ça, c'est le rôle des ARN nucléolaires qui a été décrit il y a plus de 20 ans. Mais au cours des 10 dernières années, on s'est rendu compte qu'ils intervenaient en fait à d'autres niveaux. Et donc, ils sont par exemple capables de modifier les ARN messagers, donc de modifier cette feuille volante, pour empêcher que les ribosomes ne produisent la protéine. Donc, moi, j'aime imaginer ça comme des petites arsouilles là qui cachent la recette de cuisine pour ne pas que les commis puissent produire ce collagène. Et donc, c'est très intéressant d'aller comprendre pourquoi ils font ça et comment ils le font et de voir en quoi ça peut être lié à une maladie comme l'arthrose ou au développement ou au non-développement d'arthrose après une lésion du cartilage ou une lésion de l'os qui serait induite. Et donc ça, c'est le principe de mon travail dans les 3 prochaines années, c'est de comprendre en fait ces petits ARN nucléolaires, de voir lesquels sont modifiés, si on peut aussi réparer les lésions en remodifiant ces petits ARN nucléolaires.
Eh bien, Fayon-Toi, on vous souhaite le meilleur, évidemment, pour cette nouvelle étape et j'espère que vous nous tiendrez informés de la suite. On en apprend des choses dans cette émission, évidemment. Stéphane Adam, un dernier mot avec vous. Vous avez parlé en début d'émission, évidemment, de la crise Covid-19 qui a jeté une lumière particulière sur nos aînés. Le fait, dans un premier temps, de les avoir isolés pour les protéger a fait, dit-on, périr des dizaines et des dizaines de personnes qui se sont littéralement laissé glisser dans la mort. Il y a vraiment eu des décès dus à l'isolement, au sentiment d'abandon, au chagrin. C'est sans doute un élément qui a été pris en compte lors de cette deuxième vague. Est-ce que cette crise va permettre de penser la vieillesse d'une autre façon ?
De toute évidence, clairement, oui. Il y a déjà eu une prise de conscience collective et ça fait partie des enseignements positifs de la crise. On a vu aussi le rôle des personnes âgées. Hein. Quand on a déconfiné lors de la première vague, on s'est rendu compte du rôle de garde d'enfants des personnes âgées, puisque le confinement a fait qu'elles ne pouvaient plus garder